Salut!
Vous écoutez Qui veut épouser le fisc, une série de podcasts réalisée par Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
On est toutes les deux étudiantes en master de journalisme à Sciences Po Rennes. Et pendant plusieurs mois, on s'est intéressées aux histoires d'amour et d'argent. Alors le fric dans le couple, tabou ou pas tabou? Et qui gère les comptes? Le mariage, c'est oui ou bien c'est non?
Qui veut épouser le fisc, c'est 6 épisodes sur l'organisation financière des amoureux, mais aussi des réflexions sur les inégalités de genre entretenues, voire aggravées par notre système d'impôts.
Fiscalisation des pensions alimentaires, caution conjugale, solidarité fiscale, bref, on va vous parler cash. Bonne écoute!
Alors moi je m'appelle Marie, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante. Mes parents ils se sont séparés quand j'étais très jeune, je devais être en CE2 donc je vais avoir 8-9 ans. Donc ça s'est fait autour d'une discussion avec ma mère au bord de la Vilaine où elle m'a dit « bah voilà, on va avoir une nouvelle maison, tu pourras l'avoir de la fenêtre de ta chambre ». Et moi j'étais plutôt emballée par l'idée, j'avais pas trop compris qu'en fait mon père ne serait pas là. Bon après ça va, mon père habitait à moins d'un kilomètre donc finalement je le voyais tous les jours, mais c'est vrai que ça a été une séparation qui a été faite très en douceur en fait.
On commence pas tant que tu n'as pas envoyé.
Nous avons rencontré Cécile, la maman de Marie. À 46 ans, elle est agente des services publics à Rennes. Elle est revenue avec nous sur sa séparation avec Olivier en 2007.
Mais bon, moi j'avais 20 ans quand j'ai connu Olivier, donc voilà, j'avais pas de travail, je travaillais pour lui, je faisais confiance, enfin c'était comme ça. Moi, c'est ma maman chez moi qui s'occupait de tous les papiers, mon papa n'a jamais un regard dessus. J'aurais aimé avoir un regard avec Olivier, mais bon, il m'en a jamais autorisé parce qu'il n'y avait pas besoin, enfin pour lui, il n'y avait pas besoin. Quoi. Je lui ai demandé plusieurs fois, mais c'était comme ça. Donc non, maintenant, je fais les papiers à deux.
Dans les épisodes précédents de Qui veut épouser le fisc, on a vu que les inégalités économiques entre hommes et femmes existent jusque dans l'intimité. L'amour ne s'achète pas. Mais le couple hétérosexuel coûte aux femmes, en énergie, en temps et aussi en argent.
D'abord, il y a l'argent qu'il faut dépenser pour rester bien placé dans la course des meufs qui prétendent à une relation amoureuse. Vous savez, le maquillage, les coupes dites féminines à 40 euros chez le coiffeur, ou l'épilation, qui représente 20 000 euros à l'échelle d'une vie, tout ça.
Voilà, donc il y a l'argent que les femmes dépensent pendant leur vie de couple. Mais il y a aussi celui qu'elles ne gagneront jamais. Parce qu'à la mise en couple, elles réalisent en moyenne 7 heures de ménage hebdomadaire en plus, contre 2 en moins pour les hommes. Et puis, pendant longtemps, celles qui, comme Cécile, ont travaillé avec leur mari en tant qu'agricultrice, commerçante, assistante ou secrétaire, n'ont pas été rémunérées et n'ont donc pas cotisé pour leur retraite. Enfin, au risque de passer pour des rabat-joie, on sait qu'avoir un enfant entraîne une pénalité de rémunération de l'ordre de 30%.
On est passé devant le juge en 2008. Donc du coup, je suis partie avec 2 enfants sous le bras, sans travail. Et ensuite, comment ça s'est passé avec Olivier, il me versait une pension alimentaire pour les filles. Assez conséquente parce que il savait que j'avais pas travaillé, que je travaillais pas, et puis il voulait subvenir quand même aux besoins des filles. Et il prenait à sa charge aussi tous les frais de scolarité. Donc cantine, école jusqu'à la fin de leurs études. Jusqu'au bac.
Encore des chiffres, les mères assurent plus de 70% du suivi des enfants au quotidien. Ça dégage du temps au mari pour épargner, mettre la famille à l'abri et emmener tout le monde à la mer faire un tour de bateau en juillet. Bon, on caricature, mais l'idée c'est qu'on est sur un partage genré, qui n'est pas questionné. Il convient à tout le monde tant que le couple est à flot.
Mais il arrive parfois que le bateau prenne l'eau, voire qu'il chavire. On se sépare quoi. Un mariage sur 2 ne dure pas plus de 9 ans. Désolé, on casse encore l'ambiance.
Où je me suis fait un petit peu avoir, c'est que moi je me déclarais pas mère célibataire avec 2 enfants. C'est lui qui prenait les filles à sa charge et il déclarait aussi le fait qu'il me versait une pension.
Mais pourquoi du coup c'était parce que les filles vivaient chez lui
Non, elles vivaient chez moi, mais c'était comme un accord, c'était son accord à lui parce qu'il m'avait dit de. Comme il était commerçant, pour lui c'était un peu plus compliqué. Il n'avait pas envie que ça lui faisait payer des sommes énormes, quoi. Il préférait faire bénéficier les filles, quoi. Donc c'est bien que c'est moi qui me suis retrouvée à payer des impôts, alors que j'avais qu'un tout petit salaire, quoi. Et ce qu'il me donnait, c'était une belle pension alimentaire, mais moi je gagnais très peu, hein. À l'époque, je gagnais 1200 euros à peine par mois.
La belle pension alimentaire en question était de 250 euros par enfant. Alors que l'ex-compagnon de Cécile déclarait à l'époque 40 000 euros par an.
Le fait que je ne me déclarais pas seule avec mes enfants, je ne percevais pas l'allocation de parents isolés. pouvais pas justifier auprès de la CAF officiellement que Buffy vivait avec moi.
Ouais. Parce que du coup, il s'arrête aux papiers.
Il s'arrête aux impôts. Et c'est lui qui déclarait ça. Oui, ça m'a beaucoup pénalisée au niveau du logement. Donc, c'est vrai que ça a pénalisé les filles aussi, quoi.
Désormais, et depuis 2014, Marie et sa sœur sont déclarées avec leur mère. Cécile partage la gestion de l'administratif avec son nouveau compagnon, elle qui n'avait pas voix au chapitre avec son ex. On le redit, parler d'argent, c'est important. Alors c'est parti.
On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffés, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie.
Je m'appelle Sophie, j'ai 47 ans, je suis enseignante depuis 9 ans maintenant en Bretagne et avant j'étais en région parisienne.
À ce moment-là, si on reprend la métaphore du naufrage, c'est un peu comme si l'homme repartait en catamaran alors que la femme, elle, doit nager. Dans 75% des cas avec sur son dos les enfants dont elle a eu la garde. Bref, pas facile.
Donc moi je suis enseignante en sciences physiques et chimiques, mon ex-mari est... ingénieur dans les réseaux informatiques et les télécommunications. Et j'ai subi énormément de violences, pas physiques, mais psychologiques, sexuelles, économiques. On balaye. Et donc, quand je m'en suis rendu compte de la situation dans laquelle j'étais, j'ai demandé le divorce. On a deux enfants qui avaient 8 et 6 ans au début de la procédure. Donc,
En moyenne, la perte de revenus lors d'une séparation est 6 fois plus importante pour les femmes que pour les hommes. 35% de ces derniers s'enrichissent même au moment du divorce. C'est à cette étape que les transferts d'argent se contractualisent, alors qu'avant, ils se faisaient naturellement dans le couple. La pension alimentaire fait partie des clauses du contrat pour 1 million de parents séparés, dont Sophie.
Alors, ce qu'on appelle ordinairement la pension alimentaire, c'est une contribution à l'éducation, à l'entretien et à l'éducation. Donc, ça englobe quand même beaucoup plus de choses que la simple alimentation de l'enfant. Voilà, à part les deux premières années où ça a été fluctuant, depuis que j'ai pu mettre en place le paiement direct, la pension alimentaire est versée. Et donc fiscalement, elle entre dans le décompte de mon revenu.
Là, c'est le moment où vous jubilez parce que oui, on va vous reparler impôts.
Le véritable nom de la pension alimentaire est d'ailleurs contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Après une séparation ou un divorce, on peut déduire la pension versée aux enfants dont on n'a pas la garde tant qu'ils sont mineurs. On a été à la rencontre d'Hugues Biécharton, le directeur des finances publiques de Bretagne, pour essayer de comprendre pourquoi. Comme il a refusé d'être enregistré, on a fait lire ses explications.
En fait, toute source de revenus est taxable, donc c'est logique que les pensions alimentaires soient taxées. Dès lors qu'il y a obligation alimentaire, la contrepartie c'est qu'elle est déductible. Donc vous ne pouvez pas défiscaliser les pensions alimentaires, il y aurait une rupture d'égalité. Il faudrait défiscaliser toutes les pensions, pas seulement entre conjoints, mais envers les parents, les descendants, les grands-parents, les beaux-parents aussi. Ça touche des millions de personnes, hein. Ça ne passera pas à la rampe du Conseil constitutionnel. On peut le déplorer, dire que c'est davantage les enfants qui sont à la charge des femmes, qu'elles gagnent moins, etc. Peut-être. Mais c'est une manie française d'attendre de la fiscalité qu'elle corrige les inégalités sociales. Celui qui verse la pension alimentaire n'en dispose pas. C'est une obligation juridique imposée par le juge. Il n'a rien demandé, c'est pas comme s'il décidait de partir en vacances.
Et encore heureux, il ne manquerait plus que l'ex-époux parte aux Maldives avec l'argent supposé participer à l'éducation de ses enfants. On a choisi de genrer au masculin parce que dans plus de 9 cas sur 10, c'est un homme qui est débiteur. En moyenne, ce sont 8 à 10% de ses ressources qui vont à chacun de ses enfants. Cécile, la maman de Marie, a été imposée d'autant sur les pensions reçues.
Lise Chatin, fiscaliste et maîtresse de conférences à l'Université de Montpellier.
Premier angle, donc premier biais d'analyse, on se place toujours du côté de monsieur, celui qui paye, et jamais du côté de celle qui reçoit. Et moi, je propose de renverser l'angle d'analyse et de dire, on se place d'abord du côté de celle qui reçoit parce qu'elle en a besoin. Et à mon avis, comme les prestations sociales ne sont pas taxées, et il y a plein de pays où les pensions alimentaires ne sont pas taxables, donc on pose comme principe que c'est une contribution qui est là pour l'entretien des enfants et qui n'est pas un supplément de revenus, ça déjà c'est un gros pas à faire. Et dans un deuxième temps, parce que double raison, un, elle, de toute façon, elle allait la garde des enfants, donc elle perd déjà en termes de temps de travail, d'heures supplémentaires, etc. Donc, faut pas que ce soit la double peine. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si le monsieur vit avec les enfants, quand vous êtes marié, rien n'est déductible. Vous vivez avec votre gosse, rien n'est déductible. Vous vous séparez, ça devient déductible.
Du point de vue de la faisabilité, la défiscalisation des pensions alimentaires est une mesure assez simple à mettre en œuvre. Mais son effet sur la pauvreté des familles monoparentales serait assez limité, avec un coût budgétaire de 90 millions d'euros. Le gain moyen mensuel pour celles qui les touchent serait d'une cinquantaine d'euros seulement.
Ce qui changerait vraiment les choses, c'est d'inclure la pension alimentaire dans les ressources prises en compte pour les prestations sociales. Le coût budgétaire serait alors de 350 millions d'euros pour la prime d'activité, 460 millions pour le RSA, 30 millions pour les prestations familiales et 90 pour les aides au logement. Parce qu'en fait, le souci, c'est que déclarer la pension alimentaire augmente le revenu de référence des personnes séparées. Du coup, elles peuvent ne plus avoir droit à certaines prestations sociales. Leur montant de l'aide au logement ou leur prime d'activité peuvent être réduits si elles y ont droit.
Le montant de la pension alimentaire que touche Sophie, 260 euros par enfant, est basé sur ses revenus, donc 2500 à 2600 euros net, ceux de son ex-mari et l'âge de leurs enfants en 2010. Elle a décidé de ne pas demander la réévaluation de la pension depuis, de peur que ses enfants ne touchent plus les bourses.
Mes enfants, maintenant, ils sont grands, 18 et 20 ans, ils sont étudiants, ils sont boursiers. Et du coup, j'ai pas fait de démarche de réévaluation de la contribution pour les enfants, parce que c'est une démarche administrative, judiciaire, longue, qui au final risque peut-être de moins augmenter la pension alimentaire que ce qui puisse... peuvent avoir en bourse, alors que la bourse, elle, n'est pas imposable et que... Alors, normalement, c'est à celui qui doit la pension, il doit la réévaluer, il doit le faire automatiquement. Évidemment, ils ne le font pas. Et donc, il faut saisir un huissier pour que ce soit fait. Et tout est sur des démarches. C'est pas insurmontable non plus, mais tous les ans, c'est épuisant, quoi.
Courir après l'argent, de nombreuses mères de famille sont devenues expertes en la matière. La sociologue Sybille Golac le raconte dans son ouvrage « Le genre du capital ». Vous l'avez compris, ça a été notre bible pour concevoir ce podcast.
On sait que dans les familles populaires où il y a des contraintes budgétaires fortes, ce sont les femmes qui gèrent l'argent. Qui gèrent à la fois faire les courses, guetter les promos, négocier pour retarder le paiement du loyer, etc. Mais en fait, ce qu'on observe, c'est que notre système, il est fait de telle sorte que ça continue après les séparations. C'est-à-dire que les mères se retrouvent avec la charge des enfants, et c'est à elles de faire les démarches pour essayer d'avoir un budget pour s'en sortir. Donc, faire une requête pour demander une pension alimentaire, le père est déclaré impécunieux, là, elles vont devoir demander l'allocation de soutien familial à la CAF, alors qu'on pourrait imaginer un système où le père doit payer une pension alimentaire et s'il n'y arrive pas, c'est lui qui se tourne vers la CAF. Non, c'est toujours c'est la personne qui a la charge des enfants et donc en majorité les femmes qui se retrouvent à devoir faire toutes ces démarches.
Pour résumer cette idée, Sybille Golac et sa consœur utilisent la métaphore de la mendiante et du bon prince. Bon, on dirait un peu le titre d'une fable de Jean de La Fontaine, sauf que ces situations n'ont rien de moral.
Et ensuite, ça donne en audience des situations dans lesquelles le juge ou la juge va demander au père de faire une offre de pension alimentaire, de faire un geste. Et en fait, on est dans des situations où les hommes se trouvent en position, alors pas toujours agréable, hein, y a des variations, mais quand même de générosité, c'est-à-dire d'accorder quelque chose à leur ex-conjointe, où on considère qu'elles reçoivent quelque chose.
Ce sentiment, c'est celui qu'a éprouvé Sophie, avant la mise en place du paiement direct de la pension alimentaire par l'employeur de son ex-mari.
Les deux premières années où c'était comme ça fluctuant, c'était par chèque, parce que comme ça, elle venait donner son chèque pour avoir son... Merci. Je l'ai vécu, j'ai des copines qui l'ont vécu. C'est toujours le principe que l'homme se montre le prince, t'as besoin de moi, tu vois, je t'aide. C'est je t'aide, je te donne de l'argent pour les enfants, je t'aide. Par exemple, mon ex-mari avait décidé que sur le mois de vacances où il avait les enfants, alors que c'est bien écrit noir sur blanc sur tous les jugements, il avait les enfants, donc j'avais pas besoin de leur donner à manger, donc il avait pas besoin de me verser. la pension. Et donc avec des versements un peu aléatoires les premiers temps sur cette pension, j'étais obligée de faire intervenir un huissier de justice pour pouvoir mettre en place le paiement direct de la pension alimentaire par son employeur. Donc, c'est toujours des procédures supplémentaires.
Pensionman peut tout vous sauver. Super héros, donc à couler. Envoie chèque, long courrier. Pensionman peut tout vous sauver.
Il y a encore très peu de temps, 30% des pensions alimentaires n'étaient pas versées, ou de manière occasionnelle. Depuis mars dernier, tout nouveau divorce qui fait l'objet d'une décision judiciaire et met en place une pension alimentaire est automatiquement soumis à l'intermédiation financière. C'est-à-dire que le parent débiteur ne la verse plus directement au parent créditeur. En cas d'impayé, c'est l'ARIPA, l'agence de recouvrement des impayés, qui recouvre les sommes non versées. Néanmoins, pour toucher l'allocation soutien familial, l'ASF, versée par la CAF en remplacement de la pension impayée, la mère séparée ne doit pas vivre de nouveau en couple. Donc en fait, dépendre d'un homme ou de l'État, faites votre choix.
À partir de 2023, cette intermédiation concernera aussi les parents séparés non mariés, mais cela n'est pas encore le cas. Pour ces couples-là, l'huissier ne peut intervenir qu'en cas de non-paiement pendant plus de 2 mois consécutifs.
Mais les inégalités vont bien au-delà de ces 30% d'impayés. En moyenne, la pension alimentaire s'élève à 170 euros, un montant qui en général ne suffit pas à couvrir les dépenses liées aux enfants, ni les pertes de revenus pour le parent qui en a la charge. Le prix du permis de sa fille a coûté à Sophie l'équivalent de 6 mois de pension alimentaire.
Savez-vous quel est le prix d'un enfant ? Oui, c'est une vraie question. Ça a été calculé par le ministère de la Santé et des Solidarités. En France, un enfant coûte en moyenne 180 000 euros. Parce qu'on aime bien faire des comparaisons, ça pourrait être le prix d'un 30 mètres carrés à Rennes, quoi. Faut-il conclure qu'être parent devient un luxe ?
Bon, peut-être pas. Ce qui est sûr, c'est que pour fixer les montants des pensions alimentaires, les juges aux affaires familiales, les fameux JAF, se basent avant tout sur le revenu du père débiteur. Alors que les ressources de la mère et les besoins estimés de l'enfant sont supposés peser, eux aussi, dans la balance.
Idem pour les prestations compensatoires, censées corriger la perte de niveau de vie des ex-époux pendant le mariage, puis au moment du divorce.
Allez, au revoir chère madame et merci pour tout, la cuisine, la couture, les enfants, c'était du tonnerre, au revoir.
C'est ça, au plaisir.
Pour qu'une femme puisse en bénéficier, il faut que son ex-époux détienne un capital disponible important en numéraire. Pas question de toucher à l'appartement ou à la cave à vin. Résultat, la compensation des inégalités économiques est réservée aux plus aisés. Sybille Golac, co-autrice du genre du capital.
Donc on ne saurait dire mieux qu'une prestation compensatoire ne sera fixée que si l'ex-conjoint détient des liquidités. Et le montant de la prestation compensatoire va s'arrêter là, en fait, aux liquidités disponibles. Et ce que révèlent aussi les calculs autour de ces prestations compensatoires, c'est une vision très genrée du travail. Et cette vision genrée du travail, elle valorise le travail masculin et elle invisibilise le travail féminin. Alors, quand je dis travail, là, il y a le travail domestique. Donc ça, par exemple, c'est toujours, mais ça, c'est dans la vie en général, mais chez les juges, ça se retrouve aussi, le fait que, voilà, un père qui va dire « moi, je suis disponible pour prendre mes enfants un mercredi sur deux », par exemple, ça va être formidable. Il est fabuleux, il veut vraiment s'investir, etc. Par contre, une mère qui va dire « j'aimerais bien qu'ils prennent les enfants le vendredi à 4h30 plutôt que le samedi matin, ça me permettrait le vendredi soir d'assister à la réunion à mon travail », là, les juges vont dire, là, je cite des propos, hein, c'est quoi, ces enfants, c'est la patate chaude, c'est quand même très bizarre, etc. Donc en fait, les femmes, par défaut, doivent être disponibles pour s'occuper de leurs enfants. En même temps, pour les juges, je vais y revenir, mais elles sont quand même censées travailler, être indépendantes financièrement, alors qu'au contraire, le travail au sens de la carrière professionnelle des hommes est aussi très valorisé et surtout, il ne faut pas la remettre en cause.
Seul un divorce sur 5 donne lieu à une telle prestation. En moyenne, son montant s'élève à 25 000 euros. Dans les faits, elle ne compense pas grand-chose. L'étude économétrique des sociologues montre que c'est en général l'homme qui récupère les biens structurants, comme le domicile conjugal ou la voiture. On revient à la répartition genrée des dépenses dont on parlait dans les premiers épisodes. Et oui, comme ça vous pouvez écouter la série en boucle. Pendant la vie commune, les femmes ont plutôt acheté les denrées périssables alimentaires. Donc à la séparation, bye bye la résidence secondaire de Saint-Lunaire. Elles écopent d'une compensation financière, souvent sous-évaluée.
C'est très violent, c'est qu'en fait c'est un genre de prime de reconversion. Qu'on vous verse à une séparation, voilà, je te verse 30 000 et puis débrouille-toi, loge-toi, trouve un job et survis, quoi.
Au cas où vous n'auriez pas reconnu son franc-parler, la voix que vous entendez, c'est celle de la juriste Lise Chatin.
Soit elle est versée en one-shot. Ce que la loi impose, normalement, c'est qu'elle soit versée en moins d'un an. Là, auquel cas, elle n'est pas taxable pour madame. et le monsieur a un crédit d'impôt. Si la prestation est versée sur plus d'un an, et la loi permet qu'elle soit versée, par exemple, jusqu'à 8 ans, là, on est dans un délire, elle est déductible pour monsieur et taxable pour madame. Et le type, pour vous faire céder, il vous dit soit je te paye, n'importe quoi, 100 000 cash tout de suite et t'es pas taxé dessus, soit 200 000, mais c'est allé sur 8 ans. Moi, c'est déductible et toi, c'est taxable. Qu'est-ce que tu choisis, ma chérie? Donc, ça fait partie des deals, des éléments du deal quand on négocie un divorce. Donc, c'est particulièrement unique, quoi.
Les inégalités économiques dans le couple survivent donc aux séparations. Elles se creusent même jusqu'au droit à la retraite. Au-delà du débat politique, qui concerne la fiscalisation des pensions alimentaires, la question est celle de la non-reconnaissance du travail féminin. Notre société exige que les mères soient dévouées à leurs enfants, là où un père qui change les couches, va chercher les enfants à l'école, est perçu comme un super-héros. Une rupture amoureuse n'est facile pour personne, mais les femmes en paient le prix, au sens littéral du terme.
Et justement, pour clore cette série sur les inégalités de genre liées à l'impôt, on termine en beauté avec le prochain épisode, le fisc dans la peau. Marie-Cécile vous expliquera comment elle en est venue à devoir 2 millions d'euros au fisc en vertu du principe de solidarité fiscale entre époux.
Merci à Marie pour son témoignage et à Nicolas Dumont d'avoir prêté sa voix à Hugues Bécharton. Dans cet épisode, vous avez pu entendre le tourbillon de la vie de Jeanne Moreau.
Et dans un autre registre, Pension Man de Vald, un extrait du dessin animé Peter Pan et un autre de La Rupture, le sketch de Guy Bedos et de Sophie Domier. Vous venez d'écouter Qui veut épouser le fisc, une idée originale de Perrine Bontemps et Camille Montagnon.
La pochette a été imaginée par Marion Lechêne et c'est Liam Lenormand qui a créé la musique. Les interviews ont été menées à deux, Camille s'est chargée de l'écriture
et Perrine du montage. Merci de nous avoir écoutés.